Le micro est... Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Ok, je vais le baisser un peu. Je l'aurai un peu moins dans le nez, comme ça. Seigneur, je veux te remettre ce temps où nous allons écouter ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te prie d'ouvrir ma bouche. Je te prie aussi d'ouvrir les oreilles et le cœur de l'Assemblée pour que ta parole soit semée. Seigneur, que ce qui vient de toi porte son fruit, que ce qui vient de moi soit jeté au feu, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la diapo ? Il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. C'est une prière du pasteur Olivier Keshavji, en date du 1er janvier, 12h07, sur Twitter. Seigneur, donne à manger à ceux qui ont faim, un logement à ceux qui ont froid, libère les captifs du joug de l'oppression et de l'injustice, fais la vaisselle qui traîne dans l'évier et n'oublie pas de sortir les poubelles. Amen. Alors ça pique un peu, mais on va se laisser piquer. On peut enlever la diapo. Parce que cette prière grinçante, elle soulève un problème. Et ce problème, c'est que nous tendons effectivement, assez souvent, à attendre de Dieu qu'il fasse lui-même ce que lui attend de nous. Alors, je ne parle pas d'activisme ici, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on fait ou que ce qu'on ne fait pas. Je parle d'une attitude spirituelle, d'une manière de se positionner devant Dieu. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, et pourtant, tout se passe parfois comme si nous n'étions pas sortis de la mort. Nos prières sont empreintes de la passivité de celui qui attend de recevoir alors que Dieu a déjà tout donné. Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli » et pourtant tout se passe comme si rien ne l'était. Nos prières sont empreintes de demandes d'accomplissement, ce qui entraîne beaucoup de frustration puisque Dieu ne peut pas nous donner ce que nous avons déjà reçu. Et parmi ces dons, et pas des moindres, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et pourtant, là aussi, tout se passe comme si nous devions nous dépatouiller par nos propres forces, tant et si bien que nous ne voyons pas se déployer la puissance et la grâce de Dieu là où elle devrait se manifester au monde, c'est-à-dire dans l'Église. Alors, comment entrer dans la terre promise, celle où coule le lait et le miel ? Eh bien, par la foi, bien sûr. C'est parce qu'ils n'ont pas eu foi que les Hébreux ne sont pas rentrés dans la terre promise et qu'ils ont erré pendant 40 ans. Et dans l'exercice de la foi, la parole joue un rôle central. On a vu dans les prédications précédentes qu'il y avait un plan originel pour notre parole qui consistait à nommer le réel de façon juste, c'est-à-dire conformément à la parole venue du Père. On a également vu que notre parole a été brisée par le péché, tant et si bien que nous sommes devenus les accusateurs de nos frères. Et on a vu enfin comment la parole de Dieu n'est pas restée un concept éthéré, abstrait, tout là-haut, dans les cieux, mais comment elle s'est incarnée dans le réel de notre vie quotidienne, ce qui implique, en ce qui nous concerne, que notre spiritualité doit également toucher terre et ne pas rester tout là-haut dans les cieux. Et ce matin, on va parler de la parole restaurée, de notre parole, parce qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Quelle place, quel rôle pour notre parole, la parole du chrétien, aujourd'hui ? C'est un sujet délicat et quand on l'aborde, il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de tomber dans une sorte de délire de toute puissance. C'est le travers de la théologie de la prospérité. On vit comme si le royaume de Dieu était déjà là, pleinement établi et déployé sur la terre, et on se met à proclamer des guérisons imaginaires sur des gens qui sont manifestement en voie d'être rappelés à Dieu, ou on culpabilise les malades pour leur prétendu manque de foi. Et le deuxième, c'est l'autre côté du pendule, peut-être par crainte des excès du premier travers. Le deuxième, c'est de tomber dans une passivité coupable, comme si Jésus n'avait pas annoncé que le royaume de Dieu s'est approché de nous, comme si les signes du royaume ne pouvaient plus se manifester aujourd'hui, comme si la présence du Christ en nous, par son Esprit Saint, ne venait plus toucher le réel ici et maintenant. Et en fait, on doit naviguer sur une ligne de crête entre ce qu'on appelle en théologie le « déjà » et le « pas encore ». Le royaume de Dieu est déjà là, et il n'est pas encore là. Il est déjà là en espérance, et l'espérance chrétienne, ce n'est pas une espérance comme on espère qu'une chose va arriver, mais on n'est pas sûr. L'espérance chrétienne est ferme, puisqu'elle se base sur la mort et la résurrection du Christ, qui est un fait qui s'est passé dans l'histoire. C'est une espérance ferme dont nous pouvons déjà goûter les prémices. On peut déjà goûter les prémices du royaume. Et en même temps, ce royaume, il n'est pas encore là, parce qu'il sera pleinement établi au retour du Christ. Alors, comment est-ce qu'on navigue, nous, entre ces deux réalités? Comment est-ce qu'on navigue? Je vous propose trois pistes. Pour la première, on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19. Matthieu, dans le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament, premier évangile, chapitre 19. Et je vais lire les versets 1 à 8. Alors, ça vous décontenancera peut-être, parce que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite le rapport, mais vous allez le voir ensuite. Matthieu 19, versets 1 à 8. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée pour se rendre dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Et là, il se passe quelque chose. Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ils lui dirent « Alors, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie ?» Il leur dit « C'est à cause de votre obstination, d'autres versions disent à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ce texte nous dit plein de choses, et en particulier il parle du divorce. Ce n'est pas le sujet que je vais aborder ce matin. L'une des choses que ce texte nous dit, nous rappelle, c'est que nous ne vivons pas en Éden. Pour répondre à cette question du divorce, Jésus rappelle ce qu'était la volonté de Dieu dans la création. Et en substance, il dit, c'est ça votre ligne de conduite. C'est ce qui se passait en Éden, la ligne de conduite, c'est à ça que vous devez tendre. C'est ça que vous visez. Et les pharisiens, alors on se crispe toujours quand on les voit arriver, ceux-là, d'autant que là on nous dit qu'ils sont venus pour le mettre à l'épreuve, mais la question elle est quand même intéressante, je trouve. Ils demandent pourquoi à Jésus, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que la loi de Moïse permet le divorce? En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle demande à ce qu'on donne une lettre de divorce à sa femme, si on la répudie? Et la réponse de Jésus, elle est intéressante. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est quelque chose quand même, parce qu'on voit que Dieu établit ici une loi à cause de la dureté de notre cœur. Dieu tient compte de la dureté de notre cœur. Il tient compte du fait qu'on vit dans une période, une époque où nos cœurs sont durs. Il tient compte du péché. Il ne fait pas comme si nous vivions encore en Éden. Et de notre côté, on a parfois une vision un peu idéalisée de nous-mêmes, c'est sûr, parfois des autres aussi. On se surprend du péché qu'on trouve dans la parole de l'autre et on exerce sur lui un jugement dépourvu de grâce. Un vrai chrétien, ça dirait pas ça. Un vrai chrétien, ça ferait pas ça. Eh bien, il nous faut d'abord reconnaître que notre parole est faillible du fait du péché. On peine à nommer le réel de manière juste, c'est-à-dire de manière conforme à la parole de Dieu. Et en conséquence, eh bien, on se blesse les uns les autres. On va blesser nos frères et sœurs. On aura des paroles malheureuses. On aura parfois le verbe trop haut, parce que nous sommes pécheurs. Et puis, on va être blessés, nous aussi, y compris dans l'Église. Parfois à cause du péché de l'autre, effectivement, et parfois à cause de notre propre péché, de nos blessures mal cicatrisées qui font qu'une parole anodine pour tout le monde aura sur nous l'effet d'un coup de poignard. Et ça, c'est parce que nous vivons dans un monde brisé. Et on doit tenir compte de ça. Dans nos relations les uns avec les autres, on doit tenir compte de ça. C'est la réalité de notre monde. C'est la réalité théologique du pas encore. On doit composer avec ça. Et composer avec ça, ça signifie d'abord qu'on va souvent devoir nous humilier et demander pardon. Ça va arriver, parce qu'on va pécher en parole. Que nous allons devoir souvent faire grâce aux autres et les pardonner. Et dans cet exercice-là, eh bien, ça peut être aussi intéressant de sonder son propre cœur pour essayer de discerner pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai été blessé ? Est-ce que la parole de l'autre était vraiment mauvaise ? Est-ce qu'elle était contraire à la parole de Dieu, à ce que dit Dieu ? Ou bien est-ce une parole qui est simplement venue toucher une corde sensible en moi-même ? Et puis, nous devons avoir conscience de cette réalité du combat spirituel qui se joue dans nos paroles. Alors, vous me direz d'accord, mais ça, ça ne ressemble pas trop à une parole restaurée, ça ressemble plutôt à la parole brisée. Du coup, qu'est-ce que Jésus est venu changer ? Et là, il est possible que ça vous secoue un peu, on verra. En tout cas, ce que Jésus est venu changer, on le trouve en Matthieu aussi, au chapitre 10 et au verset 7. C'est un passage qu'on a déjà mentionné, il a même été mentionné ce matin. Matthieu 10, verset 7. C'est ce que Jésus demande à ses disciples de faire. Il les envoie et il leur dit « En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. » C'est ça qui a changé avec Jésus. Quand Jésus est venu, le royaume des cieux s'est approché. Dieu qui s'incarne sur la terre, c'est le royaume des cieux qui s'approche. Et ça, ça change beaucoup de choses. D'abord, on l'a dit parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole abstraite. Elle vient percuter le réel, elle vient le changer. Le royaume des cieux qui s'approche, nous dit Jésus, dans ce même passage, dans ce même verset, ce sont les malades qui guérissent, les morts qui se réveillent, les lépreux qui sont purifiés, les démons qui sont chassés. Ça, c'est la réalité du royaume. Et on a une mission avec notre parole. On n'est pas en Éden, mais on vise l'Éden. C'est pour ça que j'ai commencé par montrer qu'il nous faut tenir compte de notre péché. Parce que cette œuvre de restauration, elle commence par le fait de se reconnaître pécheur. Elle se poursuit par la repentance, demander pardon à Dieu pour notre péché. Et enfin, par la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais la mise en pratique de cette parole, elle ne concerne pas seulement notre rapport personnel, individuel à Dieu, elle concerne aussi notre rapport au monde. Nous avons à proclamer la parole de Dieu, nous avons à annoncer que le royaume de Dieu s'est approché et nous avons à rendre manifestes les signes du royaume. Ce que vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez-le gratuitement. Cette guérison que nous avons reçue, nous avons à la donner, nous aussi. Et c'est frappant, je trouve, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, moi la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a franchement secoué. Jésus ne dit pas à ses disciples « Demandez-moi de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. » Il dit « Faites-le. Faites-le vous. » C'est étonnant. On peut se demander pourquoi, et peut-être que c'est parce que nous qui étions morts, nous sommes maintenant vivants en Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, à une vie nouvelle, une vie abondante. Jésus nous rend pleinement à la vie, ce qui signifie que face à la maladie, face à la mort, face à l'exclusion sociale et aux démons eux-mêmes, on n'est plus dans une position de victimes qui subissent leur triste sort, qui ne peuvent rien faire avec ça, mais on est dans une position de combattant armé de la parole de Dieu. Et ça nous amène au troisième point de cette prédication, qui est que notre parole est revêtue d'une autorité nouvelle. Alors, on comprend bien comment Jésus, Dieu fait homme, peut faire tout ce qu'il fait en matière de miracles, de guérison, de libération des démons. C'est facile pour lui, on l'a vu. Dieu dit et la chose se passe. On comprend moins comment il peut demander à ses disciples, qui sont des pécheurs comme nous, de pauvres créatures parmi les créatures, de faire la même chose. Mais en fait, il ne les envoie pas comme ça. Il ne les envoie pas à l'arrache comme ça, débrouillez-vous, dépatouillez-vous. Le verset 1 de Matthieu 10 nous dit comment il les envoie. Il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Quand il envoie plus tard les 72, parce qu'il a envoyé les 12, puis plus tard il en a envoyé d'autres, les 72, on voit ça en Luc 10, verset 17, ces 72-là reviennent tout contents de leur mission. Les 72 revinrent avec joie, dit Luc 10, verset 17, et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Il leur dit « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair, je vous ai donné l'autorité. » Et pour finir, en Matthieu 28, le fameux grand mandat missionnaire, il nous est dit au verset 18, 19 et 20, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si nous pouvons faire les œuvres de Jésus, c'est parce que Jésus nous revêt de son autorité. On n'y va pas tout seul, la fleur au fusil, on y va comme des ambassadeurs, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus, pas en notre propre nom. Tout seul, nous ne pouvons rien faire. Tout seul, je suis démuni face à mon propre péché et à ses conséquences mortifères. Tout seul, je suis livré à l'ennemi qui peut jouer avec moi à sa guise. Et si je ne peux rien faire pour moi-même, alors autant vous dire que je peux encore moins faire pour les autres. Mais si Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, alors ça change tout. Il vit en moi, par son Esprit Saint, et par son autorité, pas par mes forces, pas par ma pauvre petite parole humaine qui ne peut rien faire, par son autorité à lui, là oui, je peux combattre et je peux vaincre. En lui, j'ai l'autorité pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons. Et là, vous le sentez. Vous le sentez venir, le délire de toute puissance dont je parlais au début. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ? Au nom de Jésus, tu es guéri, lève-toi et marche. Et hop, le paralytique se lève et marche. Autrement dit, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me passer de Jésus ? Qu'est-ce que j'aimerais que cette phrase soit une espèce de formule magique qui marche à tous les coups ? Le malade est là, je prie pour lui, par l'autorité de Jésus, et pof, il est guéri. Qu'est-ce que j'aimerais que ça soit comme ça ? Mais ce n'est pas comme ça. Parce que le royaume de Dieu n'est pas encore là dans toute sa plénitude. Et parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de formule magique, il est un Dieu de relation. Le Seigneur, dans la ferme espérance qui est la nôtre, nous permet de goûter les prémices du royaume et d'en manifester les signes au monde qui nous entoure. Et donc oui, quand nous proclamons, comme il nous le demande, que le royaume de Dieu s'est approché, il accompagne notre proclamation de signes tangibles, parce que sa parole, ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une parole abstraite, elle vient et elle impacte le monde, elle change des vies. Et donc, c'est de notre dépendance à l'Esprit Saint que doivent naître les paroles que nous posons dans le combat contre le péché, contre le démon qui les inspire et contre ses conséquences mortelles. On ne doit pas dire ce que nous aimerions qu'il advienne, on doit dire ce que Dieu nous demande de dire. Et ça, nous le discernons sur la base de notre dépendance à Dieu dans la prière, dans la relation personnelle avec lui, dans l'intimité qu'on crée avec lui, ou qu'il crée avec nous, comme vous voulez, en tout cas, ça fonctionne à double sens, et puis dans notre dépendance, évidemment, à sa parole. Sinon, ce que nous faisons, c'est que nous suivons simplement les chemins tortueux de notre cœur, qui peut être tout à fait bien intentionné, parce qu'évidemment, quand on est face à un malade, à quelqu'un qui ne va pas bien, à quelqu'un qui a des problèmes, on a envie pour lui que ça aille mieux, mais qui peut être également complètement à côté de la plaque, malgré ses bonnes intentions. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mettons-nous donc à son écoute, agissons selon ce qu'il nous demande, et nous verrons non pas la puissance de notre foi, comme s'il s'agissait de nous, mais ses grandes œuvres, ses œuvres merveilleuses, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit. Alors les amis, nous ne vivons pas en Éden. Notre monde est brisé par le péché, gangréné par la haine. Mais notre Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés sans espoir. Il s'est incarné, il nous a rejoints dans le noir. Reconnais-toi, pécheur. Trouve en Jésus ton sauveur. Ton péché, ta haine, il les a portés à la croix. Tu devais mourir, mais il est mort pour toi. Par sa parole, il te restaure. Il ramène à la vie celui qu'on croyait mort. Il t'arrache au pouvoir de l'ennemi. À ses passions mortelles, tu ne seras plus jamais soumis. Toi qui étais perdu, angoissé, démuni, tu pourras te lever. Tu pourras résister. Non par tes propres forces, tu connais ta faiblesse, mais par celle du Christ qui connaît ta détresse. Tu écouteras sa voix et lorsqu'il te le dira, tu proclameras sa parole, et ce qui était au commencement se reverra encore. Que la lumière soit, dit le Seigneur, et la lumière brille toujours plus haut, toujours plus fort. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière maintenant. Un temps pour laisser reposer ces paroles dans notre cœur. Un temps de silence, peut-être. Un temps d'engagement. Seigneur, tu sais par quoi nous passons chacun d'entre nous. Nous sommes réunis ici, tous ensemble. Nous avons aussi notre histoire individuelle devant toi. Les fardeaux dont on a parlé au début, Seigneur, qu'on veut déposer à tes pieds, tu les connais. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos maladies, tu connais nos luttes spirituelles. Tu sais ce qui nous pèse. Seigneur, ta parole nous relève. Je te rends grâce, Père, parce que tu ne nous as pas laissés là, tout en bas, dans la fange de notre péché, de nos infirmités, de notre maladie. Tu ne nous as pas laissés bloqués dans le péché, avec ses conséquences. Tu t'es incarné, tu es venu sur la terre en la personne de ton Fils Jésus, qui a porté sur lui notre péché, nos infirmités, à la croix. Et tu nous relèves de façon à ce que, face à la réalité de ce monde brisé, nous ne soyons plus démunis, mais que nous soyons équipés. Tu nous équipes de ta parole, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous plonger toujours plus dans ta parole, la connaître toujours mieux, parce qu'elle est une arme, une épée à double tranchant. Seigneur, je te prie pour que nous ayons un cœur à la prière, à la proximité avec toi, pour que nous puissions entendre ta voix nous guider dans nos circonstances personnelles, pour que nous puissions savoir comment tu attends que nous agissions vis-à-vis de ce que nous traversons ou de ce que nos frères et sœurs traversent autour de nous et dont nous avons connaissance, pour que nous puissions apporter une parole qui vient de toi, une parole d'apaisement, une parole de combat, une parole d'accompagnement, selon ce que toi tu nous diras, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. La nôtre revient souvent à nous sans effet, mais pas la tienne, Seigneur. Quand ce que nous proclamons vient de toi, ça change des vies, ça transforme des cœurs, ça guérit des malades, ça chasse des démons, ça ressuscite des morts. Seigneur, nous voulons croire cela, le vivre dans toute sa plénitude, parce que tu nous envoies dans le monde pour proclamer que le royaume de Dieu s'est approché et pour que ça se voie, pour que les gens te rendent gloire de ce qu'ils voient et de ce qu'ils vivent. À toi la gloire. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Nous allons